Mesdames, messieurs, ceci est un podcast. Un podcast Éclipse de Lune qui a pour sujet la parité femmes-hommes dans le milieu de la scène rock. Alors Éclipse de Lune, c'est quoi? C'est une exposition, photo et vidéo qui donne la parole aux femmes. Parce que l'éclipse dont nous parlons ici, ce n'est pas celle de l'astre satellitaire que nous connaissons tous. On parle ici de Lune, L'UNE. Parce que trop souvent, il faut chercher un peu pour trouver des femmes musiciennes, techniciennes, directrices, programmatrices dans le milieu de la scène rock. Peut-être avez-vous découvert l'exposition lors de la 6e édition du Festival de la Guinguette Sonore. Peut-être l'avez-vous appréciée lors d'un autre événement. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Certainement, le chemin qui vous aura conduit jusqu'ici est celui d'une curiosité. Alors rappelons que l'objectif est de mettre en lumière et de donner la parole à 8 femmes. Anaël, Emma, Eva, Isabelle, Dorothée, Capucine, Marine et Lucille. Chacune offre son témoignage et lorsque l'on visite l'exposition, leurs discours se croisent avec des interviews thématiques. Alors ici, vous en apprendrez un peu plus sur chacune d'entre elles. Mesdames, messieurs, ceci est un podcast, ou plus précisément une interview. C'est la version longue d'un témoignage que vous aurez entendu en bref lors de votre visite. Mesdames, messieurs, ce témoignage vous est proposé par l'association Les Oreilles en face des trous et par les artistes Bonniette et Gachouel. Il fait partie d'une série de 8 témoignages, vous entendrez ici celui d'Isabelle.
Je m'appelle Isabelle et je chante dans le groupe Usken, qui est un groupe de Marseille.
T'as d'autres métiers à côté, d'autres professions ou quoi?
Ah oui, je suis prof.
Ok. Et t'es prof de quoi?
Ah, je suis prof de biologie et physiopathologie humaine, c'est-à-dire professeur du corps humain, en fait, voilà.
Donc c'est en université?
Non, pas du tout, c'est en lycée technologique. C'est une filière technologique, voilà.
Et ouais, du coup, les publics que t'as, enfin ouais, donc en lycée techno, c'est plus garçon, c'est plus...
Alors dans mes filières, donc c'est filière santé sociale, c'est presque exclusivement féminin. C'est des élèves qui se destinent à être infirmière ou secrétaire médicale ou assistante sociale. Donc c'est j'ai un public très féminin, très peu de garçons, très très peu. Donc là, la parité, elle est à l'envers. Enfin, l'absence de parité est à l'envers.
Et comment ça t'arrive, des fois, de parler de musique avec tes élèves?
Pas du tout. Pas du tout. J'enseigne dans le 15e et je pense pas que... Enfin, j'ai pas le même univers musical que mes élèves. Non, puis j'ai pas l'occasion, en fait. Hein. Quand je parle du cœur, quand on fait le cœur, je parle de grosses caisses et de caisses claires pour les bruits du cœur, mais c'est tout.
C'est tout. Et qu'est-ce qui écoute tes élèves?
Essentiellement ce qui passe, quoi. Enfin, même pas du rap, encore serait du rap, j'aime bien le rap aussi, mais je sais pas, les trucs qui passent, et enfin la soupe qu'on entend là, sur les réseaux, etc., quoi. Je connais aucun nom de ce qu'ils m'écrivent dans leurs fiches en début d'année.
C'est-à-dire que tu leur demandes ce qu'ils écoutent?
Oui, je leur demande, ouais, que s'ils écoutent de la musique, s'ils regardent des films, des séries. Parfois il y a pas grand chose d'ailleurs, c'est assez triste. Ils n'ont pas beaucoup d'activité, mes élèves.
Et du coup, au niveau de l'équipe enseignant de ton établissement, vous êtes combien d'enseignants, à peu près combien d'hommes, combien de femmes?
On est 150 profs.
Okay.
Ça dépend des matières. Hein. En maths, c'est essentiellement masculin. En physique, chimie, on va dire 2/3 d'hommes. Dans ma discipline, on est 2 femmes. Dans les langues, c'est essentiellement des femmes. En français, essentiellement des femmes. Enfin voilà, c'est le schéma classique, hein, le schéma ultra classique. Les filles qui se mettent un plafond de verre pour aller vers les sciences, qui se cantonnent aux lettres et aux langues, enfin c'est vraiment ultra classique. Donc le schéma est reproduit dans mon lycée.
Qu'est-ce qui t'a décidé de prendre la fusée direction Planète Rock?
Alors ça remonte à très très loin. J'ai toujours écouté de la musique. Alors pas forcément du rock. Hein. J'ai commencé avec du Pink Floyd. Et puis rapidement, j'ai découvert Björk, PJ Harvey, des groupes aussi comme Rage Against the Machine, ou des choses comme ça. Enfin, c'était assez varié, mais c'est vrai que le rock m'a fait vibrer immédiatement, plus que le reste. J'ai jamais été très jazz. J'ai été initiée à la musique classique quand j'étais jeune, à travers la danse, mais c'est tout. Voilà.
Est-ce que tu peux nous donner les étapes clés de ton voyage dans l'espace musical ?
Les étapes clés. Mon début, le début de mon voyage en tant qu'interprète, ça a été en 96, je crois. Premier groupe qu'on a monté, où je chantais avec un autre chanteur, Thomas. Après, ce groupe a changé de nom et finalement donc est devenu le groupe L'eau, qui a pas mal tourné sur Marseille et un petit peu en France. Et je me souviens plus quand est-ce que ça s'est arrêté, L'eau. Je me souviens plus. Donc, entre 2010 et 2015, ça a dû s'arrêter, un truc comme ça. Voilà. Et puis après, ça a été Husken avec Yann, à la maison. On a commencé à enregistrer à la maison, simplement avec l'ordinateur. Et voilà, donc c'est les compos viennent, enfin les idées viennent de lui, c'est lui qui commence, qui jette les idées à la guitare en fait. Et après, je pose des lignes de chant, je travaille les textes, ou alors on les travaille ensemble aussi parfois. Et puis ensuite, il fait les arrangements, et voilà.
Du coup, tu joues d'instruments, tout ça ?
Non, moi juste je chante.
Et tu chantes en français, en anglais ?
En anglais. Voilà. Je ne saurais pas comment chanter en français.
Et au niveau comment tu chantes, tout ça, il y a eu des cours, ou même au niveau des textes du coup que tu écris, tu as des étapes de formation ou quoi ? Ou ça a été tout autodidacte ?
Ah non, sûrement autodidacte. Non. D'ailleurs, il y a des failles, hein. Mais oui. Non. Pas de cours.
T'écris sur quoi ?
Ah bah sur les grands thèmes universels, hein. Sur l'amour, sur la fin du monde, sur les gens qu'on croise aussi, des gens pénibles qu'on peut croiser dans la vie, qui nous racontent des choses absolument inintéressantes, mais qu'on écoute quand même parce qu'on est poli, sur quoi on écrit. Ouais, enfin voilà. Rien d'autre qui me vient là.
Ensuite, on envisage les icônes. Les icônes du rock. Est-ce que tu as une Vénus du rock ? Et si oui, pourquoi ?
Ah, moi, c'est Björk. Ah, mais vraiment, moi, c'est... Dès que j'ai entendu le son de sa voix, je suis tombée amoureuse de sa voix. Vraiment. Je sais pas, elle est libre, elle fait tout, elle a peur de rien, elle s'interdit rien, elle se limite pas. Bon, après, j'aime pas tout, hein, les derniers albums, je les suis plus, moi je comprends plus ce qu'elle fait. Hein. Mais vraiment, non, ouais, c'est elle.
Et est-ce qu'il y a un pendant masculin, le Mars du rock, et pourquoi ?
Je sais pas. Bowie peut-être, David Bowie, mais je suis pas fan. Enfin, j'aime beaucoup, hein, mais je suis pas fan inconditionnel comme je peux l'être pour Björk. Lui aussi, il a tout essayé, il a tout fait. Il s'est limité en rien. Ouais, ça serait le pendant masculin pour moi.
Et Björk, c'est quand même une figure. Hyper original, enfin, d'un point de vue esthétique, tout ça. En fait, enfin, ouais, Björk, c'est une figure qui est plein de choses en même temps, en fait, au niveau du genre. C'est parfois une sensualité clairement assumée, et parfois même, il me semble, il y avait un clip qui avait vraiment un côté érotique, maximal avec son époux, je crois. Il y a des fois du transhumanisme, il y a des fois de l'androgynie. Je sais pas, enfin ouais, tout ça, toi, cette esthétique de Björk, enfin c'est, ça fait partie des trucs qui font que tu l'aimes, enfin je sais pas, qu'est-ce que t'en
non,
penses.
Non, pas spécialement, c'est pas vraiment, c'est pas particulièrement son esthétique qui m'attire, qui me repousse pas non plus, hein, mais non, moi c'est vraiment sa musique, son chant, ses pirouettes vocales, enfin, c'est vraiment ça. Et sa faculté à mélanger. Tout type d'instruments, de mélanger des machines avec des instruments acoustiques. Enfin, c'est ça, cette richesse musicale plus qui me plaît beaucoup. Sur mes icônes, donc effectivement, moi c'était mon icône musicale, Björk, il y aurait aussi PJ Harvey en icône musicale. Après mes icônes en général, je sais pas, je dirais Marie Curie parce qu'elle est scientifique, je dirais Simone Veil parce qu'elle a quand même. Elle a quand même fait bouger des choses.
Lorsqu'apparaît le mouvement More Women on Stage, donc ça, c'est été 2021, est-ce que tu l'as perçu assez rapidement, enfin, parce que c'est vrai qu'on a eu des réponses comme quoi ça a fait du bruit, mais pas tant que ça finalement. Donc est-ce que c'est quelque chose dont tu as eu rapidement connaissance?
Pas du tout. Pas du tout. Non.
Et avant que ce mouvement prenne forme, est-ce que tu avais eu une réflexion, tu avais fait ce constat ou une réflexion où tu as eu des échanges avec des hommes et des femmes sur le manque de visibilité des femmes, un peu le sous-nombre des femmes dans les métiers, que ce soit en tant que musicienne, en tant que technicienne?
Alors j'ai pas eu d'échange. Je me suis pas vraiment fait de réflexion. Alors en fait, ce qui est compliqué, c'est que nous les femmes, on intègre depuis notre plus tendre enfance des tas de clichés et de schémas et des situations qui peuvent être maintenant perçues comme étranges et choquantes, ce qui est bien. Ne l'était pas forcément moi quand j'étais plus jeune. Donc, je me suis jamais posé cette question. Mais c'est vrai qu'il faut la poser. Il faut la poser. Il y a peu de femmes dans le monde de la musique. Alors, je trouve qu'il y en a plus qu'avant. Après, dans les backstage, je sais pas. C'est ça. Pour moi, ça revient au plafond de verre évoqué tout à l'heure. Ce sont des métiers techniques. Que ce soit le son, la lumière, par exemple, c'est des métiers techniques. Donc, qui dit technique, encore une fois, y a ce frein que les femmes se mettent elles-mêmes à se diriger vers ce genre de métier. Donc, les hommes prennent la place, qui est fort normal. Hein, ça, c'est la nature, hein, la horreur du vide. Donc, voilà. Et puis après, elles vont se cantonner au métier du maquillage, des costumes. Enfin, il y a cette espèce de clichés comme à la maison quoi, entre les hommes et les femmes, enfin voilà, les clichés perdurent et ouais, je sais pas.
Et toi du coup ouais, ça, c'est dans l'éducation que ça apparaît en fait, tout ça, toutes ces limites là
Ah oui, alors dans l'éducation au sens large, voilà, l'éducation familiale, l'éducation à l'école, l'éducation dans les médias. Enfin, oui, au sens large, effectivement, il faut faire bouger les choses, là, maintenant. Alors, comment, j'en sais rien. Les quotas, c'est un pis-aller pour moi, mais ça peut-être nécessaire, histoire de rendre les femmes plus visibles dans les différentes catégories, dans les différents métiers. Mais voilà, enfin... Ouais.
j'en reviens à cette question d'éducation. C'est quoi dans l'éducation qui pêche, à ton avis?
C'est que c'est tellement ancré, enfin. C'est ancré depuis des millénaires, en fait. Moi, je suis prof de bio, donc il y a ce côté aussi, on est des mammifères, et d'un point de vue biologique, on ne peut pas dire que l'homme et la femme soient. Identiques, Ça, c'est indéniable. Et d'un point de vue biologique, l'homme et la femme ont chacun des rôles précis. Et d'un point de vue biologique, la femme est faite pour enfanter, pour élever les gamins. Et l'homme a les mains libres pour parcourir l'espace et aller chasser et prendre sa place dans les lieux publics, quoi. Donc ça, c'est notre côté biologique, mais justement, enfin, c'est pas une raison, voilà, c'est pas une raison, on peut pas se cantonner à ça, mais le problème, c'est que c'est tellement ancré depuis fort longtemps, les femmes ont été cantonnées, les hommes sont plus forts aussi physiquement, tout simplement, ils sont plus forts, ils ont une voix plus forte, donc ils ont pu s'imposer peut-être plus facilement au départ. Et les femmes prennent la place qu'on leur laisse, en fait. Maintenant, donc à l'heure actuelle, les choses bougent, et c'est aux femmes de se faire une place, mais c'est plus compliqué, parce que pour faire bouger les mentalités... donc l'éducation, oui, c'est dès la plus tendre enfance, quoi. Les schémas sont reproduits. J'ai vu avec mes filles, quand elles étaient à la crèche... il y a encore les couleurs attribuées aux garçons et aux filles. Il y a encore, alors même s'il y a des efforts où tous les jouets sont accessibles, il y a quand même, malgré tout, je pense, une tendance chez certains parents encore à orienter les enfants vers tel ou tel jouet. Et ça part de là, en fait. Ça part de là. Après, donc, les enfants intègrent qu'un garçon fait ceci ou cela, une fille fait ceci ou cela. Et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et même malgré nous, puisqu'on a reçu cette éducation, on transmet aussi l'éducation qu'on a reçue sans même s'en apercevoir.
Je te pose une question personnelle, bien sûr, pas forcément répondre. Tu es maman ?
Oui.
Et du coup, comment ? Parlons quand t'étais enceinte, ça a joué un rôle dans ta vie professionnelle et personnelle, même dans ta pratique de la musique, tout ça ?
D'être enceinte,
puis après devenir maman. C'est fin. Par exemple, je sais pas, tu faisais déjà de la musique ?
Oui.
Et par exemple, du coup, tu étais peut-être dans un groupe ou quoi ?
Oui.
Et en fait, il y a eu ce temps de grossesse, il y a eu du coup aussi ce temps que tu as passé avec ton enfant, et puis ça a duré plusieurs années, quoi, je veux dire. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu as dû arrêter la scène pendant un temps, et peut-être la scène, tu l'as retrouvée, qui avait évolué un peu sans toi pendant un temps, il a fallu que tu te réadaptes après, des trucs comme ça,
Alors oui, forcément, j'ai été obligée d'arrêter la scène au bout d'un moment, mais le plus tard possible. Plus tard possible, j'ai fait des concerts avec un gros ventre. en tout cas pour la première. Et j'ai repris assez vite. Donc je me suis pas absentée trop longtemps. Ils ont fait à l'époque, donc c'était l'eau, ils ont fait un concert ou deux sans moi, mais pas plus. Et pour la deuxième, le groupe était déjà un peu moins actif, donc ça c'est moins ressenti. Donc voilà.
Et dans ta vie d'enseignante ?
Ah ben ça c'est pas problématique. Moi j'étais puisque c'est programmé, donc on prévient la direction et on est remplacé à partir du moment où on se met en congé maternité, puisque les dates sont préétablies et sont connues à l'avance. Donc il n'y a pas de souci. Et les enseignants, bon, on a notre poste, donc on le retrouve après.
Je suis désolé, je repose une question personnelle, et ben, forcément tu as le droit de ne pas y répondre. Le papa est musicien ?
Oui, c'est Yann, du groupe Husken.
Et du coup, lui, ça a joué un rôle aussi, ces moments-là, de la grossesse, des premières années, tout ça, est-ce que lui, du coup, ça a joué un rôle ? Est-ce que, par exemple, ces deux dates ?
Comment ?
Les deux dates dont tu parles, que toi, tu n'as pas fait, lui, il les a fait ?
Bien sûr. Oui. À l'époque de l'eau, on était cinq. Il y avait donc basse, batterie, guitare. Yann était à la guitare et donc Thomas le chanteur. Et moi, je chantais avec Thomas. Et je faisais la deuxième voix, donc en fait j'étais vraiment la moins indispensable du groupe. Ils pouvaient très bien faire les concerts sans moi. Il manquait des trucs, mais voilà, ça tournait sans moi. Donc oui, bien sûr qu'ils ont fait les... Il était là.
Okay. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a tendance... Non, c'est pas ce qu'on a tendance, c'est les femmes sont... J'ai l'énergie là qui me congestionne le cerveau, mais les femmes sont souvent destinées au foyer et les hommes au monde extérieur. Est-ce que tu penses que les outils qui se développent, des logiciels de montage son qui permettent finalement de travailler de plus en plus en autodidacte et en autonomie, ça peut pousser des femmes à se lancer plus qu'à une époque où ces outils étaient moins facilement accessibles?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre à ça, parce que moi je suis assez allergique aux à la technologie moderne. mais j'imagine que oui. J'imagine que oui. Je ne sais pas, quelqu'un comme Billie Eilish, elle a dû aussi... voilà, utiliser ce genre de technologie ou... j'ai pas trop de réponse à cette question. Je réfléchis avec mes filles à la maison. Elles écoutent de la musique. Il y en a une qui fait un peu de batterie, l'autre qui chante. Elles sont pas tellement tournées vers les technologies non plus. Je sais pas. Je pense que, par conséquent, oui, ces technologies, c'est un plus, c'est une offre qui se rajoute aux offres préexistantes et par conséquent, oui, ça peut être plus facile. J'imagine, oui, ça peut être plus facile, mais je sais pas. J'ai pas d'exemple concret. Ok.
Alors, on parle du projet Eclipse de Lune. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Eclipse de Lune, L'Une?
Bah évidemment, donc ça oui, c'est l'ombre des hommes sur la femme, l'ombre de l'homme sur la femme, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi c'est comme ça en fait? Pourquoi les hommes font de l'ombre? Et donc là encore une fois, je reviens sur ce que je disais. Pour moi, ça remonte à des millénaires et que les places ont été prises comme ça. Et c'est tellement difficile maintenant de faire bouger les places qui ont été occupées par les uns, par les autres. Voilà.
Que ce soit dans l'eau ou dans Illusken, tu es à chaque fois la seule femme ou il y a eu d'autres femmes qui ont gravité autour de ces projets?
Non, j'étais la seule. J'étais la seule. Okay. Et voilà.
Alors bon, on a commencé déjà un peu à les évoquer. Il y avait la question des leviers et des facteurs de progression pour que les femmes soient plus représentées et plus visibles, que ce soit sur scène, backstage ou même à des postes administratifs.
Oui.
Donc voilà, si on peut refaire un petit point là-dessus.
Oui, bon alors, c'était... Il faut que les femmes s'enlèvent ce plafond de verre qu'elles ont dans la tête. Il faut qu'elles se lancent, qu'elles osent se lancer pour commencer. Et j'évoquais tout à l'heure peut-être cette notion de quota qui est très à la mode, en tout cas dans le monde politique par exemple, ou dans les administrations des grosses entreprises, etc. Même si c'est pas une notion qui me plaît beaucoup, qui m'attire. Enfin, je trouve ça lamentable en fait d'être obligé de passer par des quotas. Mais c'est peut-être un moyen, ou même à travers les médias, c'est peut-être un moyen de forcer les petites filles à voir des femmes à tel ou tel poste, dans telle ou telle situation, afin qu'elles puissent se projeter elles-mêmes sur ce genre de métier, parce qu'il leur faut des modèles. Donc, si elles n'ont pas de modèles, si elles ne voient pas de modèles, elles ont encore plus de mal à s'imaginer pouvoir faire telle ou telle chose dans leur vie. Donc, puis il y avait l'éducation, évidemment, mais donc l'éducation intrafamiliale, l'éducation à l'école, l'éducation à travers justement les messages que peuvent transmettre les médias, ça bouge un peu en ce moment, effectivement, mais il y a encore du travail.
Dans ton engagement sur Morrowind Stage, quand tu es sur scène, tu te verrais du coup mettre le carton Morrowind Stage pendant que tu chantes?
Je sais pas. Parce qu'après, plus de femmes pour plus de femmes, en fait, il peut y avoir un biais. On peut mettre aussi des potiches hein, sur scène. Il y aura plus de femmes. C'est pas le but, évidemment. Donc, je suis pas sûre que ça passe par là. Encore une fois, pour moi, ça passe par montrer aux filles qu'elles peuvent tout faire. Voilà, leur montrer dans leur éducation, à travers leur éducation, leur montrer qu'elles n'ont pas à avoir de frein et qu'elles peuvent tout faire, qu'elles peuvent jouer de la basse, de la batterie. C'est vrai qu'elles sont rares, hein, mais on en voit de plus en plus quand même des filles derrière une batterie ou avec un instrument en main. Il y en a plus dans la musique classique, par exemple. Hein, c'est plus la parité est un peu mieux respectée dans la musique classique. Dans les orchestres, je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Après, pour les postes haut placés, genre premier violon, etc., c'est encore autre chose. Mais dans le jazz aussi, il y a peut-être plus de parité. C'est vrai que le rock, c'est peut-être plus compliqué, mais après, c'est peut-être lié à l'origine du rock. C'était les mauvais garçons aussi qui faisaient du rock. Pour le rap aussi, c'était les mauvais garçons. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les filles ne se sont pas senties concernées, entre guillemets, par ce genre de musique et qu'elles y sont venues plus tard. Mais enfin, moi, je suis assez pas optimiste, mais je trouve que actuellement, il y a plus de femmes sur scène, en tout cas. Je sais pas, j'ai vu Glitch il y a pas longtemps, c'était chouette. Voilà. Donc, puis de la musique cataloguée comme musique d'homme, hein, c'est ça qui est bien aussi. C'est pas. Donc, ça bouge un peu.
Sur le fait de participer à l'exposition du coup Eclipse de Lune. Ça, elle se situe où la différence dans ça peut être peut-être sur le fait que là on faisait l'interview, ça peut être. Et t'as le droit de critiquer Eclipse de Lune aussi, tu vois, dans sa démarche.
Non, pas du tout. Pour moi, c'est pas. Enfin. Une exposition, ça brusque pas les gens. Les gens viennent à l'expo s'ils le souhaitent. Là, les gens vont. Un public qui va voir un concert, il attend de la musique. Moi, je suis pas militante. Enfin, moi, c'est pas en faisant de la musique que je suis militante, en fait. Moi, je suis plus militante à travers mon travail ou à travers l'éducation que j'essaie de donner à mes filles. Mais c'est. Après voilà, c'est personnel. Hein. Je vais pas non plus critiquer. Hein. J'ai pas de problème avec les musiciens qui sont militants et qui sont militants sur scène. Mais moi, c'est pas mon. Je suis pas à l'aise avec ça. C'est pas mon truc.
Là, pour le coup, mon Women on Stage. Alors, c'est dommage parce que je n'ai plus ni le nom de la bassiste ni le nom de son groupe. Pogo Car Cash Control, un truc comme ça. Et en fait, ils ont participé à un festival. Et elle était sur toute la programmation du festival, elle s'est rendue compte qu'elle était la seule femme, et donc rapidement au gaffeur, elle a écrit More Women on Stage derrière sa basse, et ça part de là. Mais c'est vrai que, est-ce que si tu vas, typiquement, je t'ai vu à l'export de la Guinguette Sonore le 25 février, est-ce que si par exemple tu vas voir comme ça une soirée où tu as trois groupes ou un format où il va y avoir 5-6 groupes d'affilée, Et est-ce que c'est quelque chose qui va quand même te marquer de te dire si par exemple il n'y a que des hommes, mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas relever ou
non.
Même pas
non, non. Okay. Non même pas même pas
ouais, et tu vois c'est marrant parce que moi pour le coup maintenant c'est un truc que je relève mais même avant c'est ouais. Enfin, voilà comme quoi
oui.
Ouais, mais c'est bien d'avoir des sensibilités différentes et de pas être tous dans le même
mouvement. Est-ce que c'est genre années 80, 90, tout ça, t'as vu dans l'image des femmes, par la publicité, par les clips musicaux, par tout ça, est-ce que t'as vu des archétypes qui revenaient?
Je sais pas, moi, une image qui m'a marquée, c'était le clip de Sinéad O'Connor, là, où elle avait la tête rasée. Ça, c'était la première. Hein. Enfin, moi, c'est la première fois que je voyais ça à la télé. Je trouvais ça génial. Et ce qui était génial, c'est que ça n'enlevait en rien sa féminité. Le fait qu'elle ait pas de cheveux. Parce qu'il y a tout un truc aussi, peut-être parce que j'ai les cheveux courts hein, que je dis ça, mais il y a tout un truc sur, sur la coiffure des filles, sur les cheveux des filles et le lien qui est fait entre la coiffure et la féminité. Et là aussi, dans la tête des gens, une femme sans cheveux ne peut pas être féminine. Et c'est vrai que c'est l'impression que parfois on peut avoir, une femme sur scène, on attend d'elle qu'elle soit jolie. On attend plus ça des femmes que des hommes, je pense. On va plus relever sur scène une femme qui sera pas dans les critères de beauté actuels qu'un homme. Il y a toujours cette pression sur l'apparence, sur l'image de la femme.
Hier, j'ai assisté à un concert à l'usine où en fait le chanteur rapidement à chaud et rapidement finit en caleçon. Et en fait, bon, parce qu'on est dans cette thématique en ce moment, j'imaginais une femme en petite culotte chanteuse. J'ai chaud, je retire ma robe et j'en ai rien à foutre, j'ai en petite culotte. Et je me dis, ouais, il y a du chemin quand même.
Il y a encore du chemin, c'est ça.
Et à côté de ça, tu sais, il y avait un peu c'était même pas un vrai duel parce que j'imagine qu'elles avaient rien l'une contre l'autre, mais il y avait, tu sais, ce Patti Smith versus Debbie Harry de Blondie. Mm-hmm. En fait, on reprochait à Debbie, enfin pas qu'on reprochait, mais on soulevait que Debbie Harry était dans l'ultra féminité par rapport à une Patti Smith. Mais finalement, est-ce que c'était pas aussi à l'époque une façon de dire, bah, je suis une femme et je fais du rock et oui, je m'habille comme une femme et j'aime les bottes et je suis pas forcément un garçon manqué.
Oui, carrément, ouais.
C'est assez intéressant. Et en fait, ça aussi on l'a déjà évoqué, c'est toujours sur les femmes qu'il faut se justifier de pourquoi je m'habille comme un mec, pourquoi je finis en... Enfin, il n'y a jamais cette pression sur les hommes.
Non, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Mais c'est le côté, c'est global, c'est le fait que les femmes aient été infantilisées trop longtemps, quoi. Non, mais enfin, le droit de vote des femmes, c'est dingue, quoi. Le chéquier, c'est dingue. Enfin, voilà. C'était les enfants de leur époux, en fait, les femmes. C'est complètement fou.
Le chéquier, c'est quelle année ?
Je sais plus.
Tu sais plus ?
Je sais plus, mais c'est récent.
C'est 44, mais le chéquier, du coup, tu sais
pas. C'est récent. Enfin, c'est par là aussi. C'est dingue. C'est complètement dingue. Donc... Et donc, c'est, voilà, c'est pareil, c'est ancré, tout ça. C'est encore là, c'est... Oui, donc les gens ont droit de regard sur l'apparence d'une femme. Et après, on va pas parler religion parce que je suis pas assez pointue sur les religions, mais il y a quand même ça aussi. La religion catholique, moi j'ai été élevée, j'ai baigné dedans, donc je peux en parler. Adam et Ève, quoi. La faute, c'est la femme. Enfin, où on est en fait. Ça part de là. Donc voilà. Tout est dit, je crois, c'est là, c'est le point de départ finalement. C'est le point de départ. C'est elle qui pervertit l'homme. Non mais je rêve. Je rêve. C'est dingue. Et voilà, on a intégré ça, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, c'est intégré ça. Et pour le déconstruire, alors que ça fait des millénaires, il y a du travail quoi.
Et ce mot de la fin, c'est une carte blanche qu'on laisse aux questionnés, à savoir si tu as un message à passer, à qui tu souhaiterais le passer, évidemment en lien avec, j'ai les mêmes formes, évidemment en lien avec le sujet Éclipse de Lune et ce que ça traite. Voilà, si tu avais un message à passer, lequel serait-il et à qui tu souhaiterais l'adresser?
Eh bien, je l'adresserai aux jeunes générations et en particulier à mes filles. Je leur dirais, prenez le pouvoir, faites, osez, vous êtes capables de tout. Donc, n'ayez peur de rien et si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le.
Merci. Ça m'a mis à chair de tout personne.